Amis, frères et sœurs, recevez de la part de Dieu la grâce, la paix et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Alors soyez tous et toutes les bienvenus à l'occasion de ce culte dominical. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le direct du site internet. Bienvenue aussi, évidemment, à celles et ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre tout de suite le premier répon indiqué sur le livret inséré dans le psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Éternel, je te célèbre de tout mon cœur, je te chante, je m'incline vers le palais de ta sainteté et je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu as rendu grande ta parole plus que tous tes noms. Pendant le jour, j'ai crié vers toi et tu m'as répondu. Tu m'as élevé et dans mon âme, c'est la force. Ils te célébreront, Éternel, tous ceux qui sont puissants sur la terre, car ils écoutent les paroles de ta bouche, et ils chantent des cantiques sur les sentiers de l'Éternel. Car elle est grande, la gloire de l'Éternel. Car l'Éternel est élevé, et il voit celui qui est abaissé. Et celui qui est arrogant, c'est de loin qu'il le connaît. Quand je vais au milieu de la détresse, tu me fais suivre. Et tu me fais vivre. Sur la colère de mes ennemis, tu étends ta main, et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à l'accomplissement pour moi. Éternel, ton amour est pour toujours. Ce que tu as fait de tes mains, tu ne l'abandonnes pas. Et je vous invite à reprendre cette louange maintenant, par le chant du psaume 138, dans le psautier français, et de ce psaume, nous chanterons les trois strophes.
Brûlant de tes louanges, je te
Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu pour nous. Dans la lettre aux Galates, nous lisons « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Prions ensemble. Ô Dieu, prends-moi dans ton silence, loin du bruit et de l'agitation du monde, dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, en sa nudité, en sa misère, car ce silence me permet de me découvrir moi-même. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence. Impose le silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Imprègne de ton silence ma nature, trop impatiente de parler, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Accueillir le pardon de Dieu, je vous invite à vous lever. Au livre des psaumes, nous lisons « Le salut de l'Éternel est proche pour ceux qui le craignent. L'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre. » Et le juste se penche du haut des cieux. Amis, frères et sœurs, le salut de Dieu est proche. Par son amour, il nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Et nous restons ensemble pour confesser notre foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle. Je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours, à travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons un extrait du livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 3, les versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, et dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre maintenant le recueil de cantiques louanges et prières que nous ouvrirons au numéro 300. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes, notre destination dernière, seront en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde, du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, c'est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou alors de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Amen. Amis, frères et sœurs, en écoutant à l'instant ces quelques versets du livre des Proverbes, peut-être prenez-vous conscience du sentiment qui vous traverse. Quelque chose qui se rapporterait à la paix, à la sérénité, ou alors quelque chose qui s'apparenterait au bonheur, aux bénédictions. En tout cas, quelque chose qui nous ferait sentir bien. Parce que, tout de même, c'est bien de bonheur dont il s'agit. Et justement, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Il n'y a qu'à voir le nombre de messages échangés à ce propos au moment du 1er mai. Même s'il se trouve que c'est la fête internationale du travail, il semblerait tout de même qu'avec le muguet comme symbole floral, ce soit aussi la fête du bonheur et de la chance, du moins pour notre pays. Se souhaiter du bonheur en s'offrant une plante qui sent très bon, qui est très jolie, mais qui se fane très vite, peut-être est-ce pour nous rappeler que le bonheur est éphémère et de passage. Ainsi que l'écrivait le poète Jacques Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Quel bonheur souhaitons-nous? Que faut-il pour être heureux? Nous pourrions sans hésiter, je suppose, établir une liste d'éléments essentiels à notre bonheur, comme l'amour, la santé, l'argent, les loisirs. Peut-être même une combinaison harmonieuse de tout cela, sans oublier bien sûr les biens de consommation, et peut-être même aussi pour certains, le pouvoir. Mais nous sommes aussi lucides sur le type de bonheur que la société occidentale propose, un bonheur essentiellement matériel, proposé ces dernières décennies par une société de consommation qui incite toujours à posséder plus, à dépenser plus, à la limite du surendettement pour certains, et au regard des désillusions que cela engendre. Et notre système économique a jusque-là cherché à générer un sentiment permanent d'insatisfaction. Et nous savons bien que la mode change vite et que la technique évolue de telle manière que nombreux sont nos achats récents déjà obsolètes, ne serait-ce qu'en matière d'informatique. Et je ne parle pas des conséquences de tout cela sur notre environnement. Depuis la pandémie, depuis les différents confinements, où certains commerces déclarés non essentiels ont été fermés, la course à la consommation a peut-être été réfrénée, mais tout cela risque fort d'exploser à nouveau quand tout va rouvrir. Alors, quel est ce bonheur que nous cherchons, que nous recherchons? Et c'est une question déjà très ancienne, exprimée d'abord dans le livre des Psaumes. Qui nous fera voir le bonheur? Et la Bible propose une réponse, toujours dans ce livre des Psaumes, inscrite comme une demande du psalmiste. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu as mis en moi plus de joie au cœur qu'au temps où abondait le blé et le vin. Alors c'est bien de bonheur qu'il s'agit, et le livre des Psaumes commence par cette acclamation « Heureux l'homme ». Il y a vraiment cette affirmation sans aucune ambiguïté que l'homme est fait pour le bonheur, mais pas n'importe lequel, car le verset de ce psaume continue ainsi « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants ». Alors, frères et sœurs, c'est avec ces mêmes mots que s'ouvre le texte que nous venons d'entendre. Heureux qui a trouvé la sagesse. Littéralement, heureux l'humain, l'être humain. Heureux le Adam, qui a trouvé la sagesse. Et non seulement la sagesse, mais aussi l'intelligence. Alors, dans notre quête peut-être éperdue du bonheur, nous sommes étonnés certainement par la simplicité de cette énigmatique sagesse qui promet à l'être humain tant de grâce et de bienfaits. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Le mot hébreu pour dire sagesse signifie à la fois habileté technique, savoir-faire, expérience, capacité à gouverner. Il s'agit donc d'une sagesse en prise avec la vie quotidienne, une sagesse bien ancrée dans le concret. Et si nous prenions le temps de lire tout le livre des Proverbes, et je vous invite à le faire, nous serions surpris de la profusion des termes et des images qui définissent la sagesse. Les premiers chapitres présentent la sagesse sous les traits d'une figure emblématique suivie d'une collection de maximes brèves ayant trait à la vie quotidienne. Et au cours de quelques chapitres, la sagesse devient une personne qui fait retentir sa voix et exhorte les êtres humains à renoncer à la bêtise. Elle répand sur ceux qui l'écoutent son souffle de vie. Elle ressemble à une femme à aimer, à étreindre, à embrasser parce qu'elle est une présence inestimable. Il ne faut pas résister à lire le chapitre 8 où la sagesse prend la parole dans un poème éclatant, où elle se présente comme la source de l'intelligence et de l'injustice, mais aussi l'instrument de gouvernement des chefs, des rois et des juges. Quelques versets affirment la préexistence de la sagesse aux origines du monde comme celle qui en fut le maître d'œuvre. Elle apparaît alors de manière surprenante sous les traits d'un enfant jouant avec le monde et trouvant ses délices parmi les êtres humains. La sagesse est aussi décrite comme une maîtresse de maison invitant chacun à participer au repas, au festin qu'elle a préparé. Et tout au long de ces chapitres, la sagesse est associée à la crainte de Dieu, une crainte qui n'a rien à voir avec la peur ou l'appréhension, mais plutôt à mettre en lien avec le respect, l'honneur, la compréhension de Dieu par l'approfondissement de son enseignement. Alors le livre des Proverbes appartient dans la Bible à cette littérature sapientiale, tout comme le Cantique des Cantiques, mais aussi le livre de Job, ou encore l'Ecclésiaste. Il est attribué au roi Salomon, dont la réputation dépassait les frontières en matière de sagesse. Sa sagesse était inspirée par Dieu lui-même. Et d'ailleurs, on y trouve l'éloge de la sagesse véritable qui vient de Dieu et qui, dans certains passages, est Dieu lui-même. Et dans ce cas, c'est un don que Dieu fait aux hommes. Et c'est aux hommes d'apprécier quoi en faire. Et c'est certainement là la grande nouveauté de ce passage biblique, la référence au discernement. Et ce livre des Proverbes, en particulier, est un ouvrage pédagogique visant à communiquer une expérience morale, religieuse, qui permettra aux jeunes générations, comme aux moins jeunes, de se conduire droitement et intelligemment dans les différentes circonstances de la vie. Alors c'est pourquoi la sagesse va de pair avec l'intelligence, ici synonyme de raison. Sagesse et intelligence. Sagesse et raison, voilà ce qui peut combler l'être humain. Un être humain comblé par des biens immatériels. Il y a de quoi être dans l'étonnement, effectivement, puisqu'il n'est plus question d'avoir, mais d'être. Alors, dans le passage que nous avons entendu, c'est celui qui recherche la sagesse qui est déclaré heureux. Et c'est bien la sagesse qui est l'objet de la quête de l'être humain. Le bonheur est donné en plus, comme une grâce. Et son bonheur est célébré par cette valeur inestimable, incomparable de la sagesse, infiniment plus précieuse que le corail ou les perles, selon les différentes traductions. Infiniment plus solide que les honneurs éphémères. Ses voies et ses sentiers sont synonymes de paix et de délices. Et le point culminant de notre passage se situe au verset 18, où la sagesse est désignée comme l'arbre de vie, reprenant exactement l'expression du livre de la Genèse. Et cette sagesse comme arbre de vie est tout simplement source de bonheur. Et à partir de ce moment-là, dans le texte, le vocabulaire pour décrire cette quête est emprunté au vocabulaire des récits de la création. Et on y retrouve les termes de la terre et des cieux. Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse, il a affermi les cieux par la raison ou l'intelligence. Les abîmes, qui est un autre mot du vocabulaire de la création, s'ouvrent grâce à la science, que l'on peut traduire aussi par connaissance. La connaissance rejoint donc la sagesse et la raison, qui apparaissent comme les trois outils nécessaires à la création du monde. Ce jardin dans lequel il y avait l'arbre de vie auquel l'être humain n'a plus accès, alors que symbolise l'arbre de vie, sinon la vie en plénitude. Voilà la promesse qui est faite au travers de ce passage du livre des Proverbes. Le bonheur de retrouver le paradis perdu. Amis, frères et sœurs, est-ce bien de cela dont nous parle l'auteur des Proverbes dans ce passage? Ce n'est pas si sûr. Le paradis du livre de la Genèse est bel et bien perdu, et avec lui la permanence d'un état de grâce, d'un Éden de luxe, de calme et de volupté. La réalité de notre monde est autre et il faut faire avec cette réalité. Mais ce que ce passage des Proverbes nous enseigne aujourd'hui, c'est que cette même sagesse avec laquelle on communiquait librement et sans honte au début du monde est toujours accessible. Et nous n'avons pas à être nostalgiques à la façon romantique de cet arbre de vie du récit mythique de la création, mais nous sommes invités à regarder le monde tel qu'il est, avec le discernement de la sagesse, de la raison, et de la connaissance. Car si la sagesse est présentée ici comme l'instrument de création de Dieu, elle reste l'apanage de tout artisan au sens propre du terme. Je pense par exemple au menuisier ou au maroquinier, comme au sens figuré de celui qui cherche à construire sa vie personnelle. Au fond, la littérature de sagesse s'intéresse à la création perpétuelle, celle qui se poursuit de génération en génération, dans toutes les inventions, dans toutes les belles imaginations qui visent à renouveler le monde, à le développer, à le rendre harmonieux, habitable, parce que la sagesse est là pour révéler, sinon pour rétablir, la justice qui équilibre les rapports humains. Et ainsi, elle garde son petit côté universaliste, par une ouverture à la liberté d'interpréter cette sagesse, présente non seulement dans la tradition judéo-chrétienne, mais dans toute religion. En effet, même si le nom du Seigneur, inscrit par le tétragramme qui désigne le Dieu d'Israël et qui est présent tout au long du livre des Proverbes, eh bien, il est tout à fait étonnant d'y trouver aussi des maximes empruntées aux peuples voisins environnants dans l'Égypte, sans aucune modification. Et de nombreux versets attribués à des sages étrangers montrent la circulation internationale de ce genre littéraire et lui confèrent ainsi toute sa valeur. Alors la sagesse est un don universellement répandu, mais que le croyant peut éclairer à la lumière de sa foi singulière. Toute religion a en son sein suffisamment de sages et de sagesse pour participer à l'harmonie du monde. La sagesse évoquée dans le livre des Proverbes n'est pas la propriété d'une religion ou d'une autre, pas plus que celle des philosophes ou des humanistes. Chaque religion est libre d'interpréter la figure de la sagesse, et certains chrétiens ne s'en priveront pas en voyant dans la sagesse une préfiguration du Christ ou une présence de l'Esprit-Saint. Le judaïsme retrouve dans la sagesse une figure de la Torah tout entière, et l'islam rapproche toute la sagesse du Coran. Quant à la philosophie, ne se veut-elle pas être amie de la sagesse, comme le suggère l'étymologie de ce mot? Les chemins de la sagesse s'ouvrent non pas en collectionnant des maximes, mais en cherchant avec discernement la façon de travailler ensemble dans ce monde, non pas les uns contre les autres, ou non pas pour exercer ou exacerber un désir stérile d'avoir raison sur l'autre, mais les uns avec les autres, de façon complémentaire et dans un respect réciproque, et sous le regard de Dieu, si nous sommes croyants. Car c'est ensemble que nous serons à l'affût de tous ces signes d'amour qui, inépuisables, ne se livrent que par fragments, de ces fulgurances de bonheur qui nous saisissent si intensément qu'elles nous permettent de nous tenir debout. Regardez le monde avec sagesse, raison et connaissance, avec des visions du monde qui s'éclairent les unes les autres. C'est tout simplement une belle promesse d'espérance, une façon harmonieuse d'appréhender le monde d'aujourd'hui pour qu'il continue de vivre demain et que nos enfants, nos petits-enfants, puissent à leur tour le cultiver. Mais nous avons juste la responsabilité de le leur transmettre. Amen.
Thank you.
dans le recueil Louanges et prières. Je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 330. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever. Prenez place et j'en profite pour remercier spécialement David Cassan qui nous accompagne aujourd'hui aux orgues.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bon dimanche. Merci beaucoup donc à Agnès qui vient de présider notre culte et puis à David qui nous accompagne à l'orgue. L'agenda de la semaine. Jeudi 4, donc comme tous les jeudis, n'oubliez pas la pause spirituelle qui sera où vous serez accompagné cette semaine par notre pasteur Agnès. Donc c'est comme tous les jeudis de 12h30 à 13h30 dans le temple. Cette semaine également, les cours de grec continuent sur Zoom, donc deux séances. Une pour les débutants le lundi 3 mai de 19h à 20h30 et pour les avancés, deux sessions au choix, une le mercredi 5 de 14h30 à 16h30 et ou bien le vendredi 7 mai de 18h à 20h. Je vous rappelle également notre besoin de produits d'hygiène, de soins et d'hygiène pour Denise Brigou de l'Armée du Salut qui s'occupe de personnes en difficulté hein, et qui a bien besoin de ces produits dans tous les formats possibles. Donc n'hésitez pas à y penser et n'hésitez pas à les amener au temple, au moment du culte et ou bien pendant la pause spirituelle. Cette semaine, donc, nos pasteurs donc, se relaient pour rester à votre écoute. Et donc, du 28 au 7, c'est donc Agnès qui a assuré la permanence. Aurore, as-tu un point sur... Ah, merci. Donc, eh ben, la dernière annonce, c'est dans quelques instants la collecte au profit, cette semaine, des actions de l'entraide. Merci à tous et bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Ô Dieu, quel que soit le nom que nous te donnions, quel que soit le nom par lequel nous t'appelions, ton nom est au-dessus de tout nom, comme ton amour dépasse toute cime et toute intelligence. Merci pour ce culte qui nous rassemble, avec celles et ceux qui sont présents, comme avec celles et ceux qui sont au loin, mais unis par cette pensée, par ce lien fraternel, par cette amitié. Il nous aide à traverser nos jours. Nous te prions, chacun à notre manière. D'abord pour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent trahis, abandonnés, oubliés, et pour certains, certaines, dans le fond d'une prison. Nous te prions pour les hommes et les femmes de bonne volonté, que tu remplis chaque jour de ta sagesse, qui prennent la responsabilité de s'engager auprès des plus démunis, comme les personnes de l'entraide, mais également celles et ceux qui prennent le temps simplement d'écouter, de ne rien dire, d'être là simplement. Nous te prions encore et toujours pour les artisans, qu'ils soient de paix ou qu'ils soient artistiques, pour celles et ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'harmonie et à la beauté de notre monde. Veuille garder toute personne engagée de près ou de loin au dialogue. Dialogue qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux se respecter. Dialogue qui permet de former à nouveau des projets, que ce soit pour ce monde, que ce soit ici, dans notre Église. Notre prière est imparfaite. C'est pour cela que nous la continuons maintenant avec les mots de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez encore l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Heureux qui a trouvé la sagesse. L'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent. Bienheureux ceux qui la tiennent. Mon ami, mon frère, ma sœur, le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. En tout temps, de toute manière, le Seigneur te donne sa paix. Amen.
Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir, dans mainte délivrance. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance.
Je vous souhaite un très beau dimanche et merci de laisser les cantiques à votre place.